VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Abidjan, 17h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. En Guinée, les forces politiques du pays sont convenues d'indemniser les victimes des violences électorales de 2013 au terme d'un dialogue national qui s'est achevé dans la nuit de lundi à mardi, date anniversaire de la réélection du président Alpha Condé. Lancé le 22 septembre, trois semaines après une rencontre entre le président Condé et le chef de l'opposition, l'ex-premier ministre Sélou Daline Diallo, ce dialogue a débouché sur une série d'accords, notamment sur l'organisation des élections locales en février 2017, la réforme de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, et la création d'une haute cour de justice. Notre dialogue est théoriquement terminé, pratiquement il le sera lorsque tous les points de l'accord ont été exécutés, a déclaré hier soir le ministre de l'administration du territoire, Borima Condé, qui présidait ces concertations entre forces politiques, sociétés civiles et partenaires internationaux. L'ultime décision a porté sur la création de deux fonds d'indemnisation des victimes des nombreuses violences des élections législatives de 2013 entachées par des accusations de fraude massive. Un premier fonds sera consacré à l'indemnisation des ayants droit des personnes décédées ainsi que des personnes handicapées. Et un second fonds sera destiné à indemniser les victimes de pillages, a expliqué le porte-parole de l'opposition Aboubakar Sila. Ces fonds domiciliés au ministère de l'administration du territoire seront alimentés par l'État et les partenaires techniques et financiers, a ajouté M. Sila. Au Sénégal, ajournement au mardi 17 octobre du procès du jeune chef religieux sénégalais Cheikh Mbacké Sarro, poursuivi pour injure contre la religion après des critiques contre les puissantes confréries musulmanes du pays. La comparution du leader religieux aujourd'hui au palais de justice de Dakar a duré une dizaine de minutes et son procès a été renvoyé sur demande des parties civiles. Objectif de la requête, mieux préparer le procès, a expliqué un avocat de ces parties civiles, Maître Serigne Diong. Cheikh Mbacké Sarro avait critiqué les marabouts au Sénégal, les accusant de faire du business avec la religion et de tromper les fidèles dans une vidéo diffusée sur Internet. Il avait dû ensuite présenter ses excuses dans une autre vidéo sous la contrainte des fidèles mourides, dont certains, selon les médias, voulaient le lyncher. Au Nigeria, le barreau nigérian confirme la libération des juges arrêtés ce week-end dans le cadre d'une enquête sur la corruption. Les précisions de Nanit Talani.
Le président du barreau nigérian, Aboubakar Mahmoud, a fait savoir que les juges interpellés ont été libérés sous caution dimanche. Toutefois, il n'a pas précisé leur nombre. Une source au sein de l'Agence nigériane de sécurité nationale a indiqué que 7 magistrats sont concernés et qu'ils se sont présentés au siège de l'agence lundi. Il dit ignorer la date à laquelle ils seront inculpés, ajoutant que leurs dossiers ont été confiés au procureur général. Les juges mis en cause siègent à la Cour suprême nigériane, à la Cour d'appel et à la Haute Cour. L'Agence de sécurité nationale, qui les a interpellés ce week-end, dit avoir saisi 800 000 dollars pendant les perquisitions. La décision d'arrêter les juges a provoqué un tollé dans le pays. Les critiques accusent le président Muhammadu Buhari de mener une chasse aux sorcières sous couvert de la lutte contre la corruption, ce que réfute le porte-parole de la présidence.
Éthiopie, le premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn a affirmé aujourd'hui vouloir réformer le système électoral pour que l'opposition soit mieux représentée, et ce en réponse au mouvement de contestation qui secoue son pays. Une annonce qui intervient lors d'une visite de la chancelière allemande Angela Merkel. Jacques Aristide.
Madame Merkel, qui termine une tournée africaine de 3 jours, a décliné une invitation à s'exprimer devant le Parlement éthiopien pour, d'après l'AFP, ne pas donner l'impression de soutenir une chambre monolithique. Mais elle était aux côtés du chef du gouvernement éthiopien lors d'une conférence de presse conjointe à Addis Abeba. Pour la chancelière allemande, une démocratie dynamique a besoin d'une opposition et de médias libres. Les gens veulent exprimer leur point de vue, ils veulent avoir leur mot à dire, a déclaré Madame Merkel. Un appel qui semble avoir été entendu par le Premier ministre Desalegn, qui a assuré que son gouvernement réformerait le système électoral pour que les voix de ceux qui ne sont pas représentés puissent aussi être entendues au Parlement. L'Éthiopie est en proie à un mouvement de contestation antigouvernementale sans précédent depuis 25 ans et selon des ONG, la répression a fait plus de 500 morts.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Burundi, le gouvernement burundais a décidé aujourd'hui de suspendre jusqu'à nouvel ordre toute forme de collaboration avec le bureau du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme à Bujumbura, bureau qu'il accuse de complicité dans l'élaboration de rapports accablants pour le pouvoir. Bujumbura ajoute avoir demandé au bureau onusien de désigner une équipe pour renégocier l'accord liant les deux parties, notamment le mandat, la durée et la taille de la structure au Burundi. Hier, le gouvernement burundais avait déjà déclaré persona non grata trois experts des droits de l'homme de l'ONU qui, dans leur rapport publié le 20 septembre, avaient accusé Bujumbura de violations graves des droits de l'homme et mis en garde contre de possibles crimes contre l'humanité. Réagissant hier à l'interdiction de territoire imposée aux trois experts des droits de l'homme, le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, avait exprimé la désapprobation des Nations Unies. Il est crucial que le Burundi ou tout autre pays et tout autre pays coopère totalement avec le mécanisme de protection des droits de l'homme de l'ONU, y compris en travaillant avec ceux qui le représentent, avait souligné M. Dujarric. La Cour pénale internationale tient aujourd'hui à la Haye sa première audience publique sur d'éventuelles indemnisations pour les victimes de crimes de guerre RDC. Les audiences qui se poursuivront jeudi doivent permettre au juge de la chambre de première instance de la CPI de déterminer comment, combien peuvent recevoir les anciens enfants soldats recrutés par le chef de milice Thomas Lubanga dans l'est de la RDC en 2002 et 2003. 1 million d'euros a été alloué au dossier par le Fonds au profit des victimes, un organe indépendant mis en place par le traité fondateur de la CPI, le statut de Rome. Au Congo-Brazzaville, le procureur de la République a accusé de terrorisme dans la région méridionale du Poule, Frédéric Bitsamo, alias Pasteur Tata Ntumi. Brazzaville traque le pasteur Ntumi et ses hommes dans ce département du sud de la capitale, tandis que ces derniers affirment ne faire que se défendre avec des fusils de chasse. Franck Eloge Mpassi, porte-parole du pasteur Ntumi, affirme que c'est plutôt l'armée qui terrorise les populations avec des bombardements par hélicoptère.
On le dit qui n'a pas fait l'enquête n'a pas droit à la parole. Entre le bombardement d'un hélicoptère et l'utilisation d'un calibre 12, qu'est-ce qui terrorise mieux la population? Il faut qu'on regarde ces rapports de force. Ce que nous demandons, nous sollicitons que les deux camps dialoguent. C'est le dialogue qui va régler le problème.
La société civile congolaise, elle aussi, appelle à un dialogue entre les deux parties. On écoute Luamba Moke, président de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral.
Depuis 1993, le Poule est toujours dans des difficultés. Et lorsqu'il y a un événement malheureux dans notre pays, le Poule est toujours à la tête, le Poule est toujours concerné. Donc c'est le chef de l'État doit se lever pour prendre des décisions, et des décisions courageuses pour effectivement, et ces décisions pour nous c'est le dialogue.
Luamba Moke, président de l'Association pour les droits de l'homme et l'univers carcéral au Congo-Brazzaville. Présidentielle américaine 2016 maintenant, la candidate démocrate Hillary Clinton a entamé ce mardi les quatre dernières semaines de la campagne électorale avec le vent en poupe, alors que le camp républicain semble avoir abandonné tout espoir concernant une possible victoire de son porte-étendard Donald Trump. Plus de détails avec Jean-Roger Bion.
Au lendemain du deuxième débat Clinton-Trump, grande déception pour le candidat républicain, le très influent Paul Ryan, président de la Chambre des représentants, a annoncé à ses députés qu'il ne défendrait pas ou ne ferait pas campagne pour Donald Trump, une façon de dire qu'il coupait tout lien avec le candidat de son parti à la présidentielle du 8 novembre. De toute évidence, il veut préserver sa majorité à la Chambre basse, qui sera renouvelée le même jour. M. Ryan ne veut pas donner à Hillary Clinton un chèque en blanc avec un congrès contrôlé par les démocrates, selon une source de son parti. En réaction, Donald Trump a dit sur Twitter que Ryan devrait consacrer davantage son temps au budget, à l'emploi et à l'immigration plutôt que de se battre contre le candidat républicain. M. Ryan s'était dit écœuré par les propos dégradants sur les femmes tenus par M. Trump dans une vidéo datant de 2005 qui a entraîné une cascade de défections républicaines tout au long du week-end. Durant le débat, Donald Trump a présenté des excuses tout en accusant Bill Clinton d'agression sexuelle. Un sondage NBC Wall Street Journal publié hier donne maintenant à Hillary Clinton une avance de 11 points sur Donald Trump. Concernant le Congrès, les Républicains pourraient perdre le Sénat et voir leur majorité à la Chambre sérieusement réduite, selon le même sondage.
Et pour terminer, Israël a bouclé les territoires palestiniens ce mardi et placé sa police en état d'alerte à Jérusalem pour parer à tout attentat possible contre les dizaines de milliers de fidèles attendus dans la ville sainte pour la fête la plus solennelle du calendrier juif, Yom Kippour.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.